Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, Black Christmas de Bob Clark. Les fêtes de Noël, des étudiants vivant dans une pension reçoivent un coup de fil leur annonçant une série de meurtres. Les cadavres commencent à tomber. Un postulat simple et efficace sert de prétexte à ce Black Christmas que l'on peut aisément considérer comme l'un des pionniers du slasher initié quelques années plus tard par Halloween et Vendredi 13. Alors quasiment invisible sur nos écrans, hormis une discrète édition VHS, Black Christmas porte la griffe de son metteur en scène inégal mais doué Bob Clark. Ce réalisateur curieux est l'auteur de deux remarquables longs-métrages, Le Mort-Vivant, terrible réquisitoire contre la guerre du Vietnam, adoubé d'un magnifique portrait de zombie déchu et surtout le génial Meurtre par décret, plongée fascinante au cœur de Whitechapel, lieu mythique dans lequel Sherlock Holmes affronte Jack l'Éventreur. Cette offre sulfureuse et anticonformiste a certainement inspiré la BD Fleuve d'Alan Moore, l'incontournable From Hell. Alors après Meurtre par décret, Bob Clark laisse ses ambitions de côté pour devenir un spécialiste des comédies teenagers gras du bide avec la série des Porky's. Récemment, il a même commis un karaté dog de sinistre mémoire. Le pauvre est décédé en 2007 dans une indifférence quasi générale. Alors dommage car ses premiers films valent vraiment le détour. Décevant au premier abord par son classicisme, Black Christmas propose son lot de surprises néanmoins. Baignant dans un climat oppressant et original, le film de Clark est une sorte de slasher avant l'heure. Un groupe d'étudiantes logeant dans une pension se font donc trucider les unes après les autres. Le tueur reste constamment hors champ. Il ne porte ni masque, ni tête d'oiseau, ni citrouille, encore moins de masque de hockey. Il fonctionne comme une présence fantomatique, abstraite, presque irréelle. Alors son incarnation est habilement représentée par des sons et fautes de paroles pas toujours audibles. Éructation d'obscénité au téléphone, rire sadique, respiration inquiétante. Cette silhouette est une sorte d'incarnation absolue du mal, une représentation symbolique des peurs enfouies en chaque individu, ces peurs qui nourrissent chaque jour les légendes urbaines. Alors le réalisateur pousse son postulat, bon, à la fois cohérent et un peu décevant, jusqu'au bout en ne dévoilant pas l'identité de l'assassin, sorte de contre-pied au bout d'une acte classique. Alors la structure narrative, hein, très classique, peine cependant à captiver le spectateur, d'autant que les personnages sont très stéréotypés. On se désintéresse dès le début de leur sort, hein, entre la vieille alcoolo sympa, le bel qui devient un suspect trop évident pour être le coupable, le flic intègre et concerné par son entourage, la jolie héroïne à qui rien ne peut arriver, hélas. Alors, mais cette absence d'enjeu au sein même du récit n'est peut-être pas un hasard. Hein. Par un curieux effet de miroir, hein, le seul personnage intéressant est le tueur lui-même, présence-absence, filmé le plus souvent en hors-champ. Alors une ombre, un bras, des cheveux, une main font office de corps. Les parties visibles ne dévoilent à aucun moment l'identité de cet assassin qui cache un secret opaque, un trauma d'enfance que le réalisateur refuse d'expliquer par un de ses sempiternels flashbacks en noir et blanc. Clark évite de surligner son intrigue, de dévoiler des enjeux trop identifiables et surtout de sombrer dans la psychanalyse de bazar, genre c'est parce qu'il a vu sa mère se faire violer devant ses yeux qu'il est devenu lui-même un assassin. Oui, vous savez, Freud, Oedipe et compagnie. Bref, Clark reste prudent avec les concepts de la psychanalyse et livre ses informations au compte-gouttes au risque de dérouter une partie des spectateurs. Le réalisateur soigne particulièrement sa mise en scène, une photographie blafarde, voire terne, crée une ambiance étouffante, sourde, d'autant que la menace est à l'intérieur même du pensionnat, sans qu'aucun des personnages ne s'en doute. Alors de brillants mouvements de caméra subjectifs créent une tension palpable qui tend à retomber comme un soufflet lors des interminables bavardages de nos brèves étudiantes, incarnées notamment par la très jolie Olivia Hussey, qui était Juliette dans le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli. Alors supérieur au slasher de base, Black Christmas demeure un film curieux et inégal, porté par un concept fort, mais qui a du mal à trouver la bonne distance entre série B routinière et ambition formelle écrasante. En 2006, Glenn Morgan a réalisé un remake jouissif de Black Christmas qui s'écartait intelligemment de la trame originelle. Alors après une édition française chez Neo Publishing au cours des années 2000, le film est ressorti récemment en Blu-ray import dans un très beau master chez les incontournables de Blue Underground avec des sous-titres français.
Kinderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.